Bonjour mes frères et sœurs, on est vendredi et après c'est samedi, après c'est dimanche et lundi, voilà, c'est le déconfinement, on est bien content. Que Dieu vous bénisse ce soir à l'écoute de la parole de Dieu. Je vais lire dans Hébreux chapitre 2, verset 12, non 11 et 12. Vous savez qu'on fait une étude sur l'épître aux Hébreux et que je pense, moi, que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite. Mais ça n'engage que moi. Alors Hébreux 2, 11, 12. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une même origine, une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée », voilà, donc ça c'est dans les psaumes. Paul est clair, Jésus procure la sainteté. C'est Jésus qui procure la sainteté. Et nous, eh bien, nous sommes les bénéficiaires de cette sainteté. Nous avons tous la même origine. Nous qui sommes les fils de Dieu, dont Jésus parle dans Matthieu 13. Vous savez qu'il est dit, un bon semeur est sorti, il a semé de la bonne semence, un méchant est venu, il a semé une mauvaise semence. Et puis après, les disciples ont dit, mais c'est quoi cette bonne semence? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Jésus lui a dit, le bon semeur, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ennemi qui sème une mauvaise semence, c'est le diable. Et la mauvaise semence, c'est les fils du diable. Donc, nous qui sommes des fils de Dieu, dont Jésus parle donc dans Matthieu chapitre 13, nous sommes la semence de Dieu. Par opposition à l'autre semence, celle du diable, qu'on trouve dans Matthieu donc 13, 39. D'autres paroles de Jésus nous comparent à... Alors il y a le bon grain, il y a l'ivraie, il y a les boucs, il y a les brebis, mais vous voyez, il y a les siens et ceux qui ne sont pas les siens. Alors celui qui sanctifie, c'est donc bien Jésus-Christ. Et ceux qu'il sanctifie sont les siens, c'est racheté. Il les sanctifie, il les met à part du monde, dans son royaume, qui est l'Église. Il a dit, je construirai, je bâtirai mon Église. Maintenant, il y a des gens qui ont construit la leur. Voilà, mais ça... Il y a des gens de l'Église de Jésus-Christ dans toutes ces églises, mais ces églises-là ne sont pas la vraie Église. Vous qui me connaissez, vous savez bien ce que je pense, et ce que la Bible dit à ce sujet. Jésus associe les siens à lui-même, et ainsi, lui et nous sommes un devant Dieu. On va lire le psaume 16, il est magnifique, un psaume absolument magnifique, le psaume 16, je le trouve dans tous mes petits bouts de papier, je vous le lis. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Vous voyez, les saints qui sont dans le pays, donc qui sont sur terre, ce sont des gens pieux. Si vous êtes quelqu'un de pieux, vous êtes un saint. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas... leur nom sur mes lèvres, sur le nom de ces dieux, de ces faux dieux, de ces idoles, de ces statues, de tout ce chenil. Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Alors ça, c'est un psaume de David. Mais c'est un psaume magnifique qui montre, voilà, qu'il y a les saints et puis il y a les autres. Dans ce psaume, il n'est pas parlé de tous les gens qui font... En fait, il est parlé des gens qui font de Jésus-Christ leur délice, qui font de Dieu leur délice, et pas parler des autres. Les autres, ce sont ce que la Bible appelle les hypocrites, les méchants, etc., etc. Ce sont les sanctifiés, les saints, qui sont sur la terre, qui font de l'Éternel leur délice. Alors, qui sont les saints? Ceux qui sont d'origine divine, puisqu'il dit que nous sommes de la même origine. Eh bien, ce sont ceux qui sont de la semence que Dieu a semée sur terre, les excellents, comme dit une autre traduction. Est-ce qu'ils sont est un contraste vraiment complet avec le reste des hommes. Les saints, les sanctifiés, sont ceux qui sont mis à part des autres gens. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Regardez dans un bon dictionnaire, vous verrez. On sanctifie, par exemple, quand vous allez au supermarché et que vous choisissez des pommes, vous sanctifiez celles que vous voulez, c'est-à-dire vous les mettez à part pour vous. Ben, c'est ce que Dieu fait. Il vous a sanctifié, il vous a choisi, il vous a mis à part. Souvenez-vous du jour du baptême de Jésus. Jean remarque que Jésus est à la tête d'un résidu, c'est-à-dire de tous ceux qui se repentent, mais lui, il est à la tête. Je dis résidu, la Bible parle de reste. Jésus s'associe au reste, ce sont les siens. Jésus prend ses délices en ceux qui aiment Dieu, en ceux qui se mettent à leur vraie place devant Dieu, dans l'humilité, qui ne disent pas « Dieu m'a dit » alors que Dieu leur a rien dit. Pour Jésus, ce sont les excellents de la terre, les saints, ceux qu'il a mis à part, les repentants. Les repentants sont les sanctifiés, ceux qui se repentent, ceux qui, pas seulement qui disent « Oh pardon Seigneur », non mais qui changent de route, qui changent de conduite, qui se comportent autrement que les gens de ce monde, les mis à part par lui, les mis à part pour lui, et les mis à part avec lui, tous un avec lui. Et bon, ça c'était du temps de Jean-Baptiste quand Jésus était sur cette terre, mais il en est de même aujourd'hui. Jésus a été par excellence l'homme mis à part, et les siens sont unis à lui, mis à part, par lui, pour lui et avec lui. Alors on va retrouver souvent ce mot dans cet épître aux Hébreux, les sanctifiés, les saints. C'est pourquoi il est nécessaire de bien savoir, de bien comprendre ce que c'est qu'un saint. C'est pas quelqu'un qui a été canonisé après un examen fait par des bonhommes en jupette, je ne sais pas où. Non, non, un saint c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, n'est-ce pas, et qui était donc mis à part par Dieu, mis à part du monde, pour faire partie de son royaume à lui, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas du monde. Alors souvenons-nous qu'avant la sanctification, il y a eu la justification. Dieu nous justifie, et à un moment donné, il nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il nous a rendus justes à ses yeux et aux yeux de la vraie Église. On ne peut pas dire, voilà, j'ai été justifié aux yeux de Dieu, mais il n'y a personne qui me reconnaît, il n'y a personne qui me connaît. Non. Quand on est justifié aux yeux de Dieu, on est justifié aux yeux des vrais chrétiens, de la vraie Église, de ceux qui sont vraiment avec Jésus. L'Église, c'est la chose la plus sainte qui existe sur terre, pas l'Église catholique, protestante, baptiste, tout ce que vous voulez. Non, non, l'Église de Jésus-Christ, celle que lui seul connaît, et puis celle qui se reconnaît. Quand on rencontre un chrétien vrai, on sait que c'est un chrétien vrai. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, on le reconnaît. Dieu nous a séparés des fils du diable, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et dans sa lettre aux Corinthiens, Dieu dit que ce que nous étions avant d'avoir été justifiés, sanctifiés, il nous dit ce que nous étions avant, qu'il ne nous justifie. Vous allez lire cette liste, c'est une liste horrible, elle se trouve dans 1 Corinthiens 6, 8, 10, lisez-le, 1 Corinthiens 6, 8, 10, c'est ce que nous étions.
On n'était pas tout à la fois, mais on était une ou deux ou trois choses qui se trouvent dans cette liste-là. Et c'est vraiment horrible. C'est ce que nous étions. Et au verset 11, alors je vais vous lire le verset 11 de 1 Corinthiens 6, eh bien, au verset 11, il nous dit, voyons, est-ce que je vais le trouver? 1 Corinthiens 11, je croyais que je l'avais noté, mais je ne l'ai pas noté. 1 Corinthiens 11, verset... Non, pardon, 1 Corinthiens 6, verset 11. Alors, il est dit... Excusez-moi. Il dit, voilà, il donne toute la liste. Il dit, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que l'apôtre croyait, vivait, enseignait. Alors, qui nous a lavés? Est-ce qu'on s'est lavé nous-mêmes? Est-ce qu'on s'est rendu propre en faisant des bonnes œuvres, en arrêtant de pécher? Non, c'est Dieu qui nous a lavés. On ne s'est pas lavé nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui nous a lavés par son sang précieux. C'est ce qu'on vient de lire. Et puis on peut le lire encore dans d'autres passages, comme par exemple dans 1 Pierre 2, où il est dit, à vous qui avez été choisis, donc sanctifiés, hein, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, donc Dieu qui sait tout, il vous a choisi, et conduit, vous qui avez été conduits à la sainteté par l'Esprit Saint, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, on était purifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Sa vie a été offerte en sacrifice afin que nous puissions être purifiés de nos péchés. Dieu nous a choisis du milieu du monde. Nous étions sales comme c'est pas possible, comme les gens du monde. Mais Dieu nous connaissait. Nous étions ses fils perdus sur la terre. Alors il est venu, il nous a choisis du milieu des autres et il nous a conduits à la sainteté. C'est ce qu'on vient de lire. Mais pour quelle raison? Afin que nous puissions obéir. Parce qu'avant, on ne pouvait pas obéir. Demander à un païen d'obéir à Dieu. Déjà, il n'aime pas ça, puis ensuite, il ne peut pas, il n'y arrive pas. Il va arriver, il va tenir une semaine, puis après, il va retomber là-dedans. C'est pour que nous puissions être capables d'obéir. Que là où ce qu'on pouvait pas, on pouvait pas faire avant, on pouvait pas obéir aux lois de Dieu. En fait, les lois de Dieu avaient même été données dans le but de nous faire comprendre qu'on ne peut pas satisfaire Dieu dans sa sainteté. Et il nous a purifiés par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit. C'est écrit, c'est dans la Bible. Ce n'est pas une idée religieuse, ce n'est pas une interprétation humaine. D'un bonhomme ou d'une bonne femme religieuse, c'est clairement écrit. C'est ce que Dieu dit, c'est donc la vérité. Il nous a choisis, et puis, conformément à sa préscience, il nous a conduits dans la sainteté par le Saint-Esprit, afin que nous devenions obéissants et purifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est la vérité. Et, étant conduits à la sainteté, eh bien, nous marchons dans cette sainteté. On était conduits à la sainteté, mais maintenant, on marche dans cette sainteté. On évolue dans cette sainteté, on progresse dans cette sainteté. C'est-à-dire que nous ne faisons plus des choses que nous faisions avant. Alors il peut arriver que de temps en temps, nous fassions quelque chose qui n'est pas très bien, très propre, mais nous pouvons confesser à Dieu notre péché, et il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous relever, nous purifier de tout péché. Il nous a déjà purifiés, et s'il arrive un accident, il ne nous rejette pas. Il suffit pour nous de venir à lui, d'être humble, de le reconnaître. Voilà, j'ai péché, et puis bon, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Mais on ne fait plus comme avant, comme quand on était dans ce monde. Bon, on fait plus les choses qu'on faisait avant, non pas parce que nous sommes meilleurs de par notre propre volonté, non, c'est pas ça. Mais c'est parce que Dieu nous a donné le pouvoir de ne plus faire les choses comme avant, de ne plus nous vautrer dans toutes ces saletés. il nous a donné le pouvoir de nous conformer à sa volonté. Paul cite le psaume 22-23 quand il dit que nous sommes les frères de Jésus. Alors je vous dis ça, psaume 22-23. Voilà ce qu'il dit. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez Dieu. Jésus est venu annoncer le nom de l'Éternel à ses frères. Ce passage de l'Écriture s'applique premièrement au reste d'Israël. Jésus, rencontrant Marie le jour de la résurrection, il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous trouvez ça dans Jean chapitre 20, verset 17. Donc, Jésus appelle ses disciples ses frères. Et quand il dit cela à Marie, il parle de ses frères juifs, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des juifs qui étaient chrétiens. N'en déplaise aux antisémites. Puis, un peu plus tard, Jésus donne ce titre de frère. Il qualifie de frère tous ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Alors, on trouve ça dans Luc, chapitre 8, versets 20 et 21. Il dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà, c'est clair. Qui c'est qui est frère de Jésus? Qui c'est qui est mère de Jésus? Qui c'est qui est frère de Jésus? Qui c'est qui est de la famille de Jésus? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est le signe. Voilà ceux qui sont frères de Jésus. Voilà ceux qui ont la même relation filiale que Jésus avec le Père Céleste. Et cette relation, elle est scellée. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Alors ça, on va lire ça dans Éphésiens, parce que c'est très important. Éphésiens chapitre 1 et versets 13-14. Éphésiens 1, 13-14. En lui, vous aussi, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, l'évangile, la bonne nouvelle qui vous sauve, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui sauve quand on y croit, quand on y adhère, quand on s'y conforme, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors je vous explique. Cette empreinte, en fait, dans d'autres versions, c'est marqué « Vous avez été scellés ». Nous avons, vous savez ce que c'est qu'un sceau, hein. Autrefois, on scellait les lettres, on mettait, ou alors même maintenant, encore à l'heure actuelle, on met un sceau, on met de la cire et tchac, on met un sceau. Ce sceau est sur nous qui avons été choisis par Dieu, mis à part par Dieu, rendus obéissants par la puissance du Saint-Esprit, et ce sceau marque notre vie. Ce n'est pas le sceau qui marque notre appartenance à une église ou à une autre église, c'est le gage de notre héritage, et le gage c'est quoi? C'est la garantie, la preuve de notre appartenance à Dieu. Dieu voit ce sceau. Il faudrait aussi quand même qu'on le voie un petit peu quand on voit les chrétiens, il faudrait qu'on voit qu'ils ont ce sceau, comme on peut le voir, mais par leur comportement. Vous savez, quand un huissier de justice pose un sceau sur un document, ce sceau est la garantie de l'authenticité du document. Je vous rappelle qu'on avait envoyé des containers en Afrique et qu'avant de les envoyer, il fallait apposer un sceau. Et quand le conteneur arrivait en Afrique, si le sceau n'avait pas été brisé, c'est que le conteneur n'avait pas été ouvert et que tout ce qui était dedans était encore bien dedans. C'était une garantie Donc, tout ce que Dieu a mis en vous, tout ce que Dceu vous a donné, eh bien, il y a un sceau qui garantit que cela va rester en vous jusque lorsque vous passerez de l'autre côté. À moins que vous brisiez le sceau, à moins que vous attristiez le Saint-Esprit et que vous cassiez votre alliance, ça c'est vous qui pouvez le faire, mais personne n'a le pouvoir de casser cette alliance qui était faite entre vous et Dieu, entre Dieu et vous. Le sceau du Saint-Esprit de vérité, le sceau du Saint-Esprit de puissance, de révélation, de sainteté, est l'empreinte de Dieu sur les choisis, sur les saints, sur ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Et nous gardons ce sceau tout au long de notre voyage. Et quand on arrivera, ben, le sceau sera là. C'est la garantie de notre héritage. C'est ce qu'on vient de lire. Il est le gage de notre héritage. C'est écrit. Je ne vous invente pas des doctrines comme certains qui vous racontent des blagues. Non. Je vous dis ce qui est dans la Bible. Et c'est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont dans ce monde, qui se vautrent dans le péché, mais qui appartiennent à Dieu, et Dieu va les sauver. Alors c'est ça, c'est en attendant qu'ils soient sauvés, en attendant qu'ils entendent l'évangile et qu'ils y croient, et qu'ils marchent avec Dieu, en attendant leur libération. Eh bien, parce que Dieu les a acquis, ils sont à eux, à lui, eh bien, en attendant, nous sommes scellés pendant notre voyage, pendant le temps, ici-bas, sur cette terre. Mes frères et sœurs, si vous avez ce sceau, vous ne pouvez pas avoir un jour ou l'autre la marque de la bête. Et la marque de la bête, mes frères et sœurs, c'est le sceau qui prouve votre appartenance, non pas à Dieu, mais à l'Église mondiale qui est en train de se créer à Rome. Alors là, je vous dis quelque chose de très important et qui est très actuel, c'est d'actualité. Il y a un pacte qui devait être fait en mai 2020 à Rome, sous la direction du pape. Et ce pacte, cette cérémonie a été reportée au 11 octobre 2020 à cause du Covid. Et ce pacte sera signé, en fait, parce que ça sera, il y aura une grande réunion de toutes sortes de gens, politiques, financiers, religieux. C'est une grande réunion qui aura lieu là, avec un pacte qui sera signé le 15, mais la réunion durera du 11 au 18 octobre 2020. Voilà ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vous trouvez ça sur Internet quand vous allez sur le site de l'UNESCO ou du Vatican et de toutes ces choses-là. Voilà ce qui est écrit. Je lis. Le pacte mondial ne se limite pas aux institutions éducatives et académiques, mais dans la conviction que l'engagement éducatif doit être partagé par tous. Il implique les représentants des religions, c'est-à-dire l'islam, bouddhiste, toutes les religions, tout ce qui est religion. Alors je relis. Il implique les représentants des religions, des organismes internationaux et des différentes institutions humanitaires du monde académique, économique, politique et culturel. Dans cette perspective, il est entendu que la participation la plus large et la plus variée souhaitée par le pape François n'est pas une dimension accessoire du pacte mondial pour l'éducation, mais constitue la prémisse et le but d'une telle alliance. Mondial. Le Saint-Siège assure sa contribution à travers ses 216 000 établissements catholiques dans le monde, avec plus de 60 millions d'élèves et 1750 universités catholiques, avec plus de 11 millions d'étudiants de différentes cultures et religions. Avant la date susmentionnée, déjà des écoles, universités catholiques et non catholiques ont organisé des jours de réflexion et de débat sur la dimension anthropologique, politique, culturelle, interreligieuse, sociale et pédagogique de ce pacte global mondial. Voilà le pacte mondial de la fausse Église, de l'Église mondiale dirigée par l'Antichrist qui commence à se matérialiser. Ça va être signé le 15 octobre de cette année. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous chipoter pour des petits détails. Occupez-vous de choses importantes. Souvenez-vous, quel est le sceau que vous voulez sur votre vie? Le sceau du Saint-Esprit ou le sceau qui va marquer l'empreinte de l'Antichrist? Ça n'est pas la puce, comme vous disent certains alarmistes, certains, comment ils s'appellent, les eschatologues. Non, c'est pas là, ça n'a rien à voir avec la puce. C'est l'adhésion à ce système mondial religieux qui va être mis en place. C'est à ça qu'il ne faudra pas adhérer, c'est cette marque qu'il ne faudra pas prendre. C'est là où vous ne devrez pas signer, et c'est là que vous allez commencer à avoir des problèmes et des persécutions, si vous ne rentrez pas dans ce système mondial. Paul écrit à ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit d'attendre que le reste de ceux qui ne sont pas encore marqués du sceau du Saint-Esprit soient marqués. Alors nous attendons, nous ne faisons pas d'attente, nous évangélisons, afin qu'un plus grand nombre puisse rentrer dans le royaume de Dieu, et quand le dernier sera rentré, ce sera bon. Mais Dieu ne sauvera que ceux qui auront le sceau du Saint-Esprit sur leur vie. Ouvrez les yeux et voyez en quel temps gravissime nous vivons. Venez à Dieu. Venez dans son Église, acte 2, acte 4. Si vous ne savez pas où il y a une église qui vit comme dans les actes 2 et actes 4, il vous faut en créer une. Vous vous mettez à plusieurs célibataires ou plusieurs couples, ou plusieurs célibataires et couples, et vous achetez une maison, vous vivez en communauté comme les premiers chrétiens, vous mettez tout en commun, vous vivez comme les premiers chrétiens, vous participez chaque jour dans la communion fraternelle, vous persévérez dans la communion avec la Sainte Cène, et les prières, mais faites-le, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Le 15 octobre, ça va être signé. Fuyez la corruption de ce monde, c'est le moment. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est absolument important. Je sais que ça n'est pas enseigné dans les églises, mais bon, il y en a quelques-uns qui l'enseignent, mais c'est important. Il faut que vous soyez certains d'avoir le sceau du Saint-Esprit sur votre vie. Seigneur Jésus, je te prie que mes frères et sœurs puissent être certains d'avoir bien passé par la porte. C'est toi la porte. Parce que tu as dit, Seigneur Dieu, qu'il y en a qui rentreront dans le royaume de Dieu par des fenêtres, par des voies détournées, et que tu les jetteras dehors. Parce que tu as dit qu'il y en a qui rentreront, qui ne seront pas revêtus du bon vêtement, de la robe blanche, et que tu les jetteras dehors. Il y en a qui s'illusionnent. Seigneur, montre à chacun si vraiment ils sont entrés par la porte, par toi, en ne croyant qu'au salut offert par Jésus-Christ sur la croix, sans condition, à part celle de croire et de vivre ce qu'on croit. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, révèle à chacun et à chacune s'ils ont été marqués par le sceau du Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt. Vendredi prochain, on ira plus loin dans la lettre aux Hébreux. Vous voyez, je vous ai dit, c'est très riche. Allez, au revoir.